Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Avec Claire Sergent. Tiens Claire, si vous deviez changer de pays pour chercher un travail, vous iriez où ?
Si je devais, pardon.
Changer de pays pour trouver un emploi.
À Singapour.
Ah oui, mais dans le classement, il est européen. On en parlera tout à l'heure à 7h45. Allez, il est 7h30. Les résultats de Crédit Agricole ont été publiés ce matin. C'était la dernière des grandes banques françaises à dévoiler ses comptes trimestriels.
Ah oui, elle dépasse les attentes. Son bénéfice net, son produit net bancaire sont supérieurs aux attentes. Son coût du risque baisse. Et surtout, Crédit Agricole enregistre une activité record dans la banque d'investissement. En direct de Euronext, on retrouve on retrouvera Aude Kersulec à la fin de ce journal pour décrypter ses résultats bancaires, voir un peu la réaction sur les marchés. On la retrouvera, Aude, toujours dans le secteur des résultats. Autre résultat dans le secteur aérien, la compagnie allemande Lufthansa réalise son premier bénéfice net trimestriel depuis la pandémie. L'activité qui est tirée par le fret à travers sa branche cargo, le groupe prévoit un résultat opérationnel d'au moins 500 millions d'euros à la fin de l'année.
Un sujet qui va sans doute provoquer des remous, notamment dans l'opposition. Le gouvernement veut réformer le RSA, le Revenu de Solidarité Active. Il va lancer des expérimentations dans plusieurs départements.
Ah oui, on en connaît le principe. Le versement des aides sera conditionné à une activité comme des stages, des formations. Le gouvernement dit vouloir raccrocher les allocataires du RSA au milieu du travail, leur permettre une meilleure insertion. Et ce matin, ce que nous révèlent les échos, c'est que ces expérimentations, elles vont débuter dès la rentrée, Sofiane Aklouf.
Oui, l'exécutif veut s'inspirer du nouveau contrat d'engagement jeune qui prévoit entre 15 et 20 heures d'activité hebdomadaire et une échelle de sanctions en cas de manquement. Un certain nombre de départements pilotes ont été identifiés, ils seraient entre 5 et 10. Le Nord, la Somme ou les Alpes-Maritimes ont fait part de leur intérêt. Mais la liste n'est pas arrêtée, ils seront chargés d'accompagner différemment les allocataires. Un suivi qui préfigure le lancement de France Travail, vous savez, le nouveau pôle emploi voulu par Emmanuel Macron, avec une place plus forte donnée aux entreprises, à la formation professionnelle et au retour à l'emploi. Selon les informations des Échos, la généralisation de ce dispositif est prévue pour début 2024.
Sofiane, le gouvernement veut remédier à un problème structurel avec le RSA, c'est le faible taux de retour à l'emploi de ceux qui perçoivent le revenu de solidarité active.
Oui, mais c'est difficile de savoir si ce type de réforme fonctionne parce qu'une expérimentation de ce type a bien été tentée en Île-de-France entre 2019 et 2021. Le bilan vient d'être publié par le ministère du Travail et il est très mitigé. Seulement 38% des places réservées aux allocataires du RSA dans ces formations professionnelles ont été occupées. Le public éloigné du monde du travail ne parvient pas réellement à s'y raccrocher. Pour autant, rester sur le modèle actuel du revenu de solidarité active convainc peu de monde. Selon la Cour des comptes, seul un tiers des bénéficiaires du RSA ont un travail 7 ans après le début de la période d'indemnisation. Et encore, dans la grande majorité des cas, ce n'est pas un emploi durable.
Merci beaucoup, Sofiane Aklouf. L'Europe cherche depuis des semaines maintenant à s'affranchir de l'énergie russe.
Oui, mais elle est encore loin du compte. Un exemple, le diesel. L'Europe peine à ne plus dépendre de Moscou. Pour preuve, ses importations ont augmenté de plus de 20% le mois dernier par rapport à juillet, il y a un an. Charlotte Guerre.
Ne plus financer la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine, ce n'est pas si évident pour l'Union européenne. Le mois dernier, l'Union a importé 700 000 barils de pétrole par jour. C'est près d'un quart de plus qu'un an plus tôt sur la même période, selon Vortexa, un groupe de suivi des pétroliers. À l'heure actuelle, la Russie représente plus de la moitié des importations de diesel de l'Union et 15% de notre consommation globale. La demande pourrait encore grimper. Les prix du gaz naturel et de l'électricité ne cessent d'augmenter, incitant les industriels à consommer davantage de diesel. Encore beaucoup d'achats. Malgré un accord voté par les 27 pour réduire de 90% leurs importations de pétrole russe d'ici à février, finalement l'Union européenne a décidé de l'assouplir le mois dernier en autorisant par exemple ses entreprises à effectuer des transactions avec Rosneft, société russe d'extraction de pétrole. De son côté, la France importait un quart de son diesel de Russie il y a deux ans et pour s'en affranchir aujourd'hui, elle se tourne vers d'autres fournisseurs, comme les Émirats arabes unis, avec lesquels le pays a passé un accord le mois dernier.
Et toujours dans le secteur de l'énergie, cette nomination, Emmanuel Wargon va prendre la présidence de la Commission de régulation de l'énergie.
Le Parlement a validé, mais de justesse, sa nomination hier. L'ancienne secrétaire d'État à l'écologie s'inscrit dans la droite ligne du gouvernement. Elle milite pour une refonte profonde de l'ensemble des prix de l'électricité. Mathieu Pechberti.
La crise énergétique oblige à changer les règles du jeu du marché de l'électricité. La nouvelle présidente du régulateur de l'énergie estime que l'envolée des prix pousse à revoir leur fixation. Pour Emmanuel Wargon, le système actuel est devenu totalement obsolète.
Les mécanismes de régulation qui fonctionnaient par temps calme, que ce soit à l'échelle française ou européenne, ne fonctionnent plus dans un marché dans lequel le prix de l'électricité atteint en ce moment 800 euros du mégawatt-heure.
Elle souhaite que les prix de l'électricité ne soient plus indexés sur ceux du gaz, dont les cours ont explosé et sont à la main des Russes. Elle plaide à l'inverse pour que la France s'affranchisse des règles européennes afin de profiter des avantages du nucléaire.
Nous devons mieux intégrer dans notre prix de marché national la part des énergies décarbonées, renouvelables et nucléaires, qui sont une base pour nous et dont les prix n'augmentent pas aussi vite que les prix du gaz.
Emmanuel Wargon défendra cette stratégie devant la Commission européenne, mais la bataille est loin d'être gagnée. Bruxelles refuse pour le moment à la France toute exception, ce qui risquerait de remettre en cause l'unité du marché en Europe.
Ça ne vous aura pas échappé, le thermomètre bat de nouveau des records. Troisième vague de chaleur en France depuis le début de l'été et cette pression claire qui augmente de plus en plus sur les assureurs.
Mais oui, parce que la sécheresse ne cesse de s'aggraver et elle ne touche pas que les agriculteurs, elle touche aussi les particuliers et leurs habitations. Et en bout de chaîne, la facture, elle risque donc de s'alourdir pour les assureurs. Caroline Morisseau.
C'est un phénomène connu depuis longtemps mais qui inquiète de plus en plus. Dans le jargon des assureurs, on l'appelle RGA pour retrait gonflement des sols argileux. Concrètement, en période de sécheresse, les sols se rétractent. À l'inverse, en période de pluie, ils se gonflent au point d'abîmer les fondations et de créer des fissures dans les habitations. Le problème est loin d'être marginal. Selon un récent rapport de la Cour des comptes, en France, près de la moitié des maisons individuelles sont exposées à ce risque, avec à la clé une facture qui s'élève déjà 1 milliard d'euros par an pour le régime catastrophe naturelle pris en charge par l'État et les assureurs. Pour cela, encore faut-il que la commune obtienne une reconnaissance de catastrophe naturelle. Pour les particuliers concernés, les procédures relèvent d'un véritable parcours du combattant. Surtout avec les sécheresses à répétition, les assureurs redoutent une facture de plus en plus lourde, ce qui pourrait pousser certains à augmenter leurs cotisations ou à réduire les indemnités.
Et on termine par les résultats de Crédit Agricole.
Et on vous retrouve, Aude Kersulek, en direct d'Euronext, je le disais. Donc, la Crédit Agricole qui ferme le bal des résultats des banques et qui, elle aussi, dépasse les attentes.
Et oui, il y a des résultats surtout portés par la banque d'investissement pour le Crédit Agricole. Les activités de marché ont bien performé, notamment grâce à la volatilité en fait des cours, parce que Crédit Agricole vend beaucoup d'instruments de couverture. Et c'est ce qui s'est passé lors de ce second trimestre. Le bénéfice s'affiche à 1,98 milliard d'euros pour ces trois mois. C'est bien plus qu'estimé. L'estimation, c'était 1,18 milliard. Le produit net bancaire, le revenu des banques est en hausse de 9% à 6,3 milliards d'euros. Et puis surtout, le coût du risque, qui est un indicateur qu'on regarde beaucoup pour les banques, est en baisse de 27%. Ça veut dire que Crédit Agricole a passé beaucoup moins de provisions pour créances douteuses que les trimestres précédents. Ça veut dire aussi qu'il a une meilleure vue sur les capacités de remboursement de ses clients. Donc c'est évidemment positif. Alors un Crédit Agricole donc porté par sa banque d'investissement, c'est assez différent finalement de ce qui s'est passé quand même chez BNP ou Société Générale, où là c'était la banque de détail qui avait beaucoup bien rebondi.
Merci beaucoup Aude, vous restez avec nous, on va parler des crypto-monnaies dans un instant.
BFM Business, BFM Crypto, la chronique.
23 096 dollars précisément ce matin pour le Bitcoin.
Et oui, alors, pas beaucoup de variations ces dernières heures pour les crypto-monnaies. Plus 1,2% pour le Bitcoin, 23 000 effectivement sur le seuil des 23 100 dollars. L'Ethereum qui monte de 1,8% à 1649 dollars. Et puis hier, je vous parlais de cette attaque en cours sur la blockchain Solana. Elle est toujours en cours, même si ça profite pour l'instant à la crypto-monnaie qui est en hausse de 2,3% donc pour Solana.
On va parler de Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France. Il lance un fonds qui va investir dans des start-up spécialisées sur les crypto-monnaies. Expliquez-nous.
Oui, 100 millions d'euros dédiés donc aux start-up de la crypto et du Web3 de manière générale, la finance décentralisée. Alors ça va passer par Aglaé Ventures. C'est le fonds de capital risque qui est soutenu par LVMH et qui a déjà investi d'ailleurs beaucoup dans la tech, dans des entreprises comme Airbnb, Netflix ou encore Slack. Alors là, c'est quand même un soutien de poids pour le secteur de la crypto-monnaie parce que ça intervient à un moment charnière. Les investissements dans les start-up de crypto-monnaies ont chuté de 22% lors de ce deuxième trimestre par rapport au début de l'année, selon un rapport de The Block Research, même si là, l'Europe réussit à battre la tendance. Donc, Bernard Arnault, acteur des crypto-monnaies, du luxe à la crypto, il n'y a décidément qu'un pas.
Merci beaucoup, Aude Kersulek, en direct du siège d'Euronext à La Défense. Une question à présent, elle concerne la visite médicale pour les salariés en CDI, en CDD ou même en intérim dans les entreprises. Elle doit être organisée au maximum tous les 5 ans. Elle est gratuite et obligatoire pour le salarié. Elle est facturée en employeur, y compris lorsque le salarié ne répond pas à la convocation. Est-ce bien le cas? Écoutez les explications de Thomas Schnell.
Retrouvez votre rendez-vous avec veracash.fr. Un compte, une carte et un accès aux métaux précieux. En télé, radio et digital. Good morning business.
Et si vous changez de pays pour booster votre carrière, quels sont les pays européens les plus attractifs en matière de mobilité professionnelle? On va en parler avec Alexandre Jude, économiste pour le site Indeed. Bonjour, vous avez mené une étude. Le Luxembourg est le pays le plus attractif pour les demandeurs d'emploi étrangers. La France n'arrive qu'en 7e position. Ça pique un peu. Quels sont les critères qui ont permis d'effectuer ce classement?
Alors, c'est un critère très simple, totalement objectif. On va juste, en réalité, faire le solde entre les recherches entrantes et les recherches sortantes. Et on regarde finalement le pays qui a le solde positif rapporté à l'ensemble des recherches le plus élevé.
Mais est-ce qu'on sait quels sont les critères qui alimentent, qui dirigent ces recherches? Est-ce que les demandeurs d'emploi sont d'abord intéressés par un salaire plus élevé? Est-ce qu'ils pensent davantage aux perspectives de carrière? Est-ce qu'on a des informations sur ces critères?
Alors, le salaire, c'est clairement le premier critère. Forcément, les pays riches vont offrir des salaires qui sont beaucoup plus élevés. On a vu pendant la pandémie qu'un certain nombre de pénuries de main-d'œuvre s'étaient aggravées et donc forcément ça a pour effet de pousser les salaires dans un certain nombre de secteurs vers le haut. Donc les pénuries de main-d'œuvre ont contribué à augmenter en tout cas le désir de mobilité des actifs européens. On a aussi le télétravail qui s'est fortement développé dans le sillage de la crise et qui va faire que de plus en plus d'offres vont être accessibles à des chercheurs d'emploi étrangers. Et enfin, la situation géopolitique qui va inciter un certain nombre de personnes qui viennent de pays où la situation est peut-être un peu dégradée, l'Ukraine, Hong Kong, à regarder vers d'autres pays, en particulier des pays européens.
Alors on le voit bien dans le classement, des pays riches effectivement et des pays à la fiscalité attractive. Dans l'ordre, Luxembourg, Suisse, Royaume-Uni, Allemagne, Irlande, Pays-Bas et donc la France en 7e position. Dans quelle mesure est-ce que la qualité de vie joue sur l'attractivité des pays? On voit que l'Espagne et le Portugal se placent respectivement en 9e et 10e position, alors que le climat, la gastronomie notamment, devraient attirer les demandeurs d'emploi.
La qualité de vie doit sans doute jouer, effectivement. C'est surtout le niveau de vie, en fait, ce que votre salaire vous permet d'acheter. les emplois, on va dire, très très qualifiés, en général, ont tendance à se concentrer dans un certain nombre de villes, dans un certain nombre de pays, qui vont petit à petit se spécialiser, hein, peut-être, dans un certain nombre d'activités. On peut citer, par exemple, la City de Londres, qui, malgré le Brexit, continue à être un grand centre financier européen. Donc, il n'y a pas uniquement, effectivement, la qualité de vie. Il y a aussi l'écosystème, il y a l'implantation des entreprises, surtout quand on regarde donc, cette variable de salaire qui est le premier critère des candidats.
Dans quelle mesure est-ce que la crise sanitaire puis la guerre en Ukraine a fait évoluer ce classement des pays les plus attractifs ?
Alors, il y a eu une formidable accélération du télétravail. En France, par exemple, les offres en télétravail, le volume d'offres sur le site Indeed a été multiplié par 3. Quand on regarde par exemple le cas de la France, le télétravail est l'un des premiers facteurs qui attire les clics étrangers. C'est pas trop les salaires, c'est pas trop les pénuries de main-d'œuvre, contrairement par exemple à l'Allemagne ou au Royaume-Uni. Chez nous, c'est surtout le télétravail, les postes en télétravail qui vont attirer les candidats étrangers. Pour répondre précisément à votre question, ça dépend évidemment des pays. Si on regarde par exemple la situation en Pologne, c'est sûr que le marché du travail polonais, qu'on observe nous parce qu'on est aussi présent en Pologne, a été fortement bouleversé par l'afflux de réfugiés ukrainiens. Il y a dans un certain nombre de pays, si vous voulez, plein d'explications qui expliquent cet afflux de chercheurs d'emploi étrangers.
Là, on parle des pays les plus attractifs. Est-ce qu'on sait quels sont les travailleurs les plus recherchés ? Est-ce qu'il y a une origine qui est plébiscitée par les entreprises européennes ?
Alors, une origine, peut-être pas. Ça dépend surtout des secteurs, en réalité, qui souffrent de pénurie de main-d'œuvre. Si on regarde la France, par exemple, on a beaucoup de clics étrangers sur les emplois de l'informatique, sur les emplois de la santé, sur les emplois de l'industrie, sur les emplois de la construction. La construction, l'informatique, la santé, c'est des choses aussi qu'on retrouve énormément sur le Royaume-Uni et l'Allemagne. Donc ça dépend vraiment, surtout, on va dire, des pénuries de main-d'œuvre.
On dit toujours que c'est très intéressant, évidemment, d'avoir une expérience de travail à l'étranger, que c'est un plus dans un CV. Est-ce que c'est forcément un bon calcul à long terme ? Je pense notamment aux cotisations retraite, à la protection sociale d'une manière générale. Quand on s'exile à l'étranger, et je pense notamment à la France, on a parfois un trou dans ses trimestres.
Oui, alors c'est effectivement quelque chose auquel on ne pense pas forcément tout de suite.
Quand on part.
Quand on part. Je sais qu'il y a énormément de choses qui sont faites au niveau européen pour essayer d'harmoniser un peu ces différents systèmes de retraite. Même au sein d'un pays, hein, ça peut parfois être assez compliqué d'harmoniser des systèmes de retraite. On a l'exemple pour la France. Mais quand même, en Europe, on bénéficie quand même d'un écosystème qui est relativement privilégié. C'est pas comme si vous alliez travailler à Hong Kong ou aux États-Unis, par exemple, où là, il y a encore plus de difficultés.
Mais vous confirmez que c'est un booster de CV ?
Il reste énormément de choses à faire, et l'emploi, l'expérience à l'étranger est clairement un booster de CV, en particulier dans les entreprises qui sont les plus compétitives. Si vous revenez par exemple en France, vous avez d'autant plus de chances de trouver un emploi dans des entreprises qui sont exportatrices, dans des multinationales, donc en général les entreprises qui sont les plus productives.
Merci beaucoup Alexandre Jude, économiste pour Indeed. Donc classement des pays européens les plus attractifs en matière de mobilité professionnelle, on le rappelle, numéro 1, le Luxembourg, la France est en 7e position. L'édito, Emmanuel de Chypre.
Good morning business. L'édito.
Bonjour Emmanuel, rebonjour, on s'est vu tout à l'heure.
Rebonjour.
Comment est-ce que les consommateurs vont faire leurs achats de Noël ? Réponse avec une étude qui vient d'être publiée par Salesforce à partir de données prédictives.
Eh ben oui, Noël, c'est demain, hein, c'est maintenant qu'il faut y penser. Attendez, les autres années, on se disait, ah ben regardez, avec toutes les pénuries qu'on craignait, c'était pas une mauvaise idée. Alors effectivement, hein, faut rappeler Salesforce, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le leader mondial de la gestion de la relation client. Et donc, à partir de l'analyse des données d'activité de plus d'un milliard de consommateurs dans plus de 60 pays, Salesforce publie régulièrement ses anticipations de consommation pour les mois à venir. La première tendance pour la fin de l'année, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Les ménages vont continuer à faire leurs achats de Noël de plus en plus tôt. Alors depuis 2 ans, hein, la principale motivation, c'était, vous savez, les risques de pénurie, les craintes de pas avoir jouets, par exemple, qu'on souhaite. Eh bien, cette année, le moteur de cette anticipation des achats, c'est l'inflation. 42% des consommateurs vont encore anticiper leurs achats à travers le monde, 37% aux États-Unis.
Ça veut dire quoi, qu'on va essayer de guetter les bonnes affaires?
Ah ouais, pour dès la fin octobre, début novembre, effectivement, ça va commencer. Les achats de Noël vont vraiment débuter, sachant que Salesforce sort un chiffre qui est lui plus préoccupant, 17% des consommateurs à travers le monde, ça fait quand même 850 millions de personnes, ignorent s'ils achèteront le moindre cadeau en fin d'année, 15% des Américains, et ça fait écho à une autre statistique qui a été publiée par Personal Capital concernant les États-Unis. 56% des consommateurs américains constatent déjà une diminution de leur niveau de vie à cause d'une progression beaucoup plus forte des prix que des salaires.
Est-ce qu'on sait là où les consommateurs vont faire leurs achats? Plutôt en ligne, plutôt en magasin?
Alors, c'est vraiment très intéressant parce que plus que jamais, les deux sont complémentaires et la synergie entre les deux joue. D'abord, il y a le contexte, qui est le contexte d'une très forte concurrence, justement parce qu'il y a de l'inflation. Donc les consommateurs vont faire jouer la concurrence. Une personne sur deux fera des infidélités ou n'hésitera pas à faire des infidélités à ses marques préférées si effectivement ces marques sont trop chères. Et effectivement, le renforcement de la synergie magasin physique, site internet, elle est frappante. Salesforce nous dit que les marques qui disposent de boutiques verront leur vente en ligne progresser une fois et demie plus vite que les sites qui n'ont pas de boutique.
On nous dit que les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux questions environnementales, aux questions sociales.
Ouais.
Ça, c'est sur le papier. Est-ce que c'est vrai?
Ah oui, c'est vrai, absolument. 88% des consommateurs attendent désormais des marques et des détaillants qu'ils énoncent clairement leurs valeurs. 64% cesseront d'acheter les marques qui ne correspondent pas à leurs valeurs. 83% des consommateurs comptent s'orienter vers des marques et des produits durables pour leurs achats en vue des fêtes de fin d'année. Et ils sont quand même pas loin d'un tiers à accepter, par exemple, des délais de livraison plus longs si les conditions de transport sont plus respectueuses de l'environnement. Et puis alors, la fracture des générations quand même hein, sur les NFT. 46% des consommateurs pourraient envisager d'acheter des jetons non fongibles. Mais alors, la génération Z, c'est les moins de 25 ans. Ils sont 4 fois plus susceptibles d'acheter ces NFT. Donc, en gros, l'idée qu'un bien physique, finalement, est accompagné de son jumeau numérique, en quelque sorte, eh bien, ils sont 4 fois plus nombreux, la génération Z, que la génération X, celle des 45-55 ans. Ça va discuter ferme sous le sapin, NFT, pas NFT, il y en a qui vont être déçus, il y en a qui vont être aux anges. C'est un cadeau risqué, les NFT, mais ça peut marcher auprès des moins de 25 ans.
Mais ça peut rapidement valoir pas grand-chose.
Sous le sapin, ça peut faire plaisir, c'est déjà ça.
Merci beaucoup Emmanuel de Chypre, l'édito tous les matins à suivre la météo, puis le journal de Claire Sergent. Je vous rappelle qu'à 8h15 tout à l'heure, Éric Coquerel, député LFI, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, sera mon invité.
Télé, radio et digital. Good morning business. Stéphane Pedrazzi.
Il est 8h à la une de l'actualité économique ce matin. Faut-il taxer les super profits des entreprises? Le secrétaire général de l'ONU relance le débat. Il appelle les gouvernements à taxer les bénéfices des compagnies pétrolières pour soutenir les personnes vulnérables. Est-ce forcément une bonne idée? On en parlera tout à l'heure à 8h15 avec Éric Coquerel, député LFI, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Y aura-t-il bientôt une contrepartie au versement du RSA? Le gouvernement s'apprête à lancer une expérimentation dans une dizaine de département, quelques heures de travail ou de formation chaque semaine en échange du revenu de solidarité active. En cas de succès, le dispositif pourrait être généralisé dès 2024. On va également vous raconter ce matin le retour d'une grande tradition de l'époque soviétique. La Russie serait sur le point de relancer les Berioska, ces magasins où on peut acheter des produits d'importation et les payer en devises étrangères. En théorie, ils sont réservés aux diplomates, mais l'expérience des Berioska nous a montré qu'ils étaient également accessibles au cadre du Parti communiste. Est-ce le grand retour des apparatchiks? Sofia Naklouf nous en parlera dans un instant. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Et on fait un nouveau point sur l'actualité avec Claire Sergent. Le Sénat et l'Assemblée nationale, Claire, ont adopté le projet d'urgence en faveur du pouvoir d'achat.
A eu feu vert des deux chambres, seule la gauche s'est opposée ou abstenue lors du vote. Une enveloppe globale de 20 milliards d'euros est prévue. L'idée d'une taxation sur les superprofits n'a pas été retenue, mais elle pourrait revenir à la rentrée. Bercy se prépare au retour du débat et s'intéresse à d'autres secteurs qui pourraient également contribuer, comme les banques. La logique reste la même au gouvernement, pas d'impôts supplémentaires, mais on attend des entreprises aux résultats solides qu'elles fassent des efforts. C'est le cas des banques, Emmanuel Le Chypre.
Oui, effectivement, et là, ça pose quand même beaucoup de questions sur ce qu'on définit comme étant des surprofits. Parce qu'effectivement, on avait dans un premier temps compris que ces surprofits, eh bien, c'était une manne que certaines entreprises ont empochée suite aux multiples perturbations provoquées par la Covid-19 et la guerre en Ukraine. Et donc, effectivement, quand les prix du pétrole s'envolent ou du gaz s'envolent et que ça fait exploser les profits de Total, oui, effectivement, c'est des surprofits. Même chose pour CMA, CGM, avec le prix du fret maritime. Est-ce que la pénurie de microprocesseurs, finalement, qui fait flamber les prix, est-ce que et donc les profits de STMicro, est-ce que ce sont des super profits? Là, c'est plus discutable. Mais quand on en arrive aux banques, effectivement, la question, pour le coup, mérite vraiment d'être posée, puisqu'on a, par exemple, Société Générale qui doit assumer le coût de son désengagement de la Russie, donc pas des très bons résultats. Crédit Agricole qui fait des bons résultats, les mêmes à peu près que l'année dernière à pareille époque. On a BNP Paribas qui fait plus 26% sur le semestre. Mais là, on n'est pas directement, en gros, dans les conséquences de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine. C'est juste un rebond lié à l'activité, finalement, post-Covid. Mais c'est un rebond comme il y en aurait après des crises ou des récessions. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne juge plus seulement les profits portés par les circonstances exceptionnelles, mais les profits trop élevés ou très élevés tout court. Et là, du coup, on rentre dans une autre logique qui est sans doute plus dangereuse pour l'attractivité fiscale du pays. Alors, effectivement, Bercy a beau jeu de dire « Ah ben non, nous, on veut pas de cette taxe sur les superprofits. En gros, comme on l'a fait pour Total, on veut tordre le bras au secteur qui font des gros profits pour qu'ils redonnent un petit peu de pouvoir d'achat aux consommateurs. » Mais là, c'est plus de la logique fiscale. Là, c'est de la logique de concurrence. Si on considère que les prix sont trop élevés pour les consommateurs et que les entreprises font trop de profits, c'est pas à la fiscalité qu'il faut recourir. Là, il faut aller sur des outils plus de concurrence. Je rappelle quand même la conclusion de l'OCDE. Si on avait dans tous les secteurs le même niveau de concurrence que la moyenne des pays de l'OCDE, on aurait en France 1 million d'emplois supplémentaires. Donc, effectivement, il y a peut-être un problème de concurrence dans ce pays.
Merci.
De fiscalité.
Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre. On entendra l'avis d'Éric Coquerel qui sera mon invité dans une dizaine de minutes.
Et hier, c'est Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui est revenu à la charge sur une taxation des superprofits. Il a dénoncé la cupidité des entreprises pétrolières et gazières qui réalisent des bénéfices records sur le dos des plus pauvres à la faveur du conflit en Ukraine.
Emmanuel en parlait à l'instant, les résultats de Crédit Agricole ont été publiés ce matin.
Crédit Agricole qui dépasse les attentes, son bénéfice net frôle les 2 milliards d'euros, alors que les analystes prévoyaient seulement 1,2 milliard. Et surtout, Crédit Agricole enregistre une activité record dans la banque d'investissement. Et de son côté, BPCE annonce un bénéfice net de 1,3 milliard d'euros au deuxième trimestre, quasiment stable par rapport à l'année dernière, malgré un environnement globalement difficile, dit la banque.
À l'international, escalade des tensions à Taïwan ce matin.
Et l'armée chinoise tire des projectiles vers le détroit de Taïwan. Pékin, qui a vu la visite de Nancy Pelosi, la chef de la Chambre des représentants américaine, comme une provocation, a décidé de répliquer militairement. Pour l'heure, il s'agit d'exercices militaires autour de l'île, mais l'ampleur est sans précédent. Et de son côté, Taipei dit se préparer à la guerre sans chercher la guerre.
La réunion était évidemment particulièrement attendue, réunion des pays de l'OPEP+, qui finalement s'est terminée sans véritable surprise.
Oui, l'organisation a rehaussé sa production de 100 000 barils par jour. C'est à peine 86 secondes de la demande mondiale. L'OPEP qui, une fois de plus, ne veut pas débloquer des stocks pour contrer l'inflation. Mais il y a peut-être une raison derrière ça, c'est qu'elle n'a pas les marges de manœuvre nécessaires. Ses stocks sont au plus bas, Valentin Grille.
L'OPEP ne veut pas lâcher la Russie sous embargo et se prépare à une baisse de la demande à l'échelle globale. Mais les 23 membres n'ont tout simplement pas les réserves pour augmenter leur production, comme le souligne Alexandre Andlauer, analyste chez Kepler.
Il faut bel et bien avoir en tête que depuis le début de l'année, la production des pays de l'OPEP a augmenté de 300 000 barils. Elle aurait dû monter de 3 millions. Donc on aurait dû déjà voir une augmentation de la production beaucoup plus forte.
Les stocks sont au plus bas depuis 5 ans. Il ne reste qu'1 à 2 millions de barils par jour à l'OPEP, soit 1 à 2% de la demande mondiale. Un problème structurel qui touche tous les producteurs, y compris l'Arabie Saoudite, sommée de compenser le déclin du Nigeria ou encore de l'Angola.
En fait, le souci, il est malheureusement pas nouveau, c'est qu'on n'a pas investi ces dernières années. C'est vrai pour les producteurs internationaux, européens et américains, mais aussi, c'est aussi vrai pour les acteurs comme Saudi Aramco qui n'ont pas vraiment eu les finances nécessaires entre 2015 et 2020.
Il manque à l'heure actuelle 1 million de barils par jour pour que les stocks ne fondent plus. Dans ce contexte, les prix devraient repartir à la hausse. Seul remède, douloureux, une récession globale qui, elle seule, pourrait diminuer la demande.
Toujours dans le secteur de l'énergie, les États-Unis font un pas supplémentaire vers les mini-réacteurs nucléaires.
Ah oui, la commission de régulation des activités nucléaires américaines vient d'homologuer le design d'un SMR. C'est ces mini-réacteurs nucléaires qui sont conçus par la start-up NuScale. Un petit réacteur qui pourrait donc être bientôt produit en série, Jean-Baptiste Huette.
C'est une véritable course de fond qui s'est engagée au niveau mondial. Les SMR, Small and Modular Reactors, aiguisent les appétits. Plus de 80 projets sont en cours de développement dans plusieurs pays, certains très avancés comme celui de NuScale. La start-up américaine a soumis depuis 2016 une demande de certification pour sa technologie et depuis quelques heures, son SMR a rejoint le club très fermé des 7 réacteurs homologués aux États-Unis. NuScale propose des modules capables de produire chacun environ 50 mégawatts, l'équivalent d'une dizaine d'éoliennes. Enterré aux deux tiers, il est possible d'en combiner plusieurs afin d'atteindre une puissance allant jusqu'à 600 mégawatts. Des réacteurs qui demandent beaucoup moins de travaux d'infrastructure que des réacteurs classiques. Plus petits, ils sont aussi présentés comme moins dangereux. Les premiers exemplaires devraient être opérationnels en 2029. Quelques autorisations complémentaires devront être délivrées entre-temps, mais pour NuScale, le plus dur est fait. La France travaille également sur un projet similaire, NuWard. Toutefois, rien n'est attendu avant au moins 2030.
Toutes les entreprises sont appelées à diminuer leur consommation d'énergie.
Ouais, les centres commerciaux vont s'y mettre aussi. Unibail-Rodamco Westfield annonce son plan d'attaque contre le gaspillage énergétique avec effet immédiat, Hélène Cornet.
26 degrés l'été, 17 l'hiver, ce sont les seuils de déclenchement de la climatisation et du chauffage dans la vingtaine de centres commerciaux que compte le groupe en France. Pas plus, pas moins, les températures sont maintenues à ces niveaux afin de réaliser des économies d'énergie. Parmi les autres mesures, la réduction de 30% de l'éclairage dans les parkings, l'extinction complète du centre en dehors des horaires d'ouverture ou encore la fermeture des portes extérieures des bâtiments climatisés. Unibail se fixe comme objectif de faire baisser de 20% sa consommation d'énergie d'ici 2030. Sans attendre donc les consignes du gouvernement, la foncière devance également le protocole présenté il y a 2 semaines par les fédérations du commerce. L'ensemble des enseignes et de la grande distribution s'est en effet mis d'accord pour le même type de mesures concrètes à partir du 15 octobre prochain. Le secteur dit vouloir montrer l'exemple, mais cette mobilisation est surtout due à l'envolée spectaculaire des prix de l'électricité, un coût qui représente déjà près de 30% de leur résultat net et qui pourrait doubler dès cette année.
Je vous le disais tout à l'heure en titre, la Russie va raviver une vieille tradition soviétique.
Oui, elle va relancer les magasins Berioska, hein, tous les produits venant de l'Occident qui sont déjà en train de devenir une denrée rare. Ils seront vendus en duty-free, avec quelques conditions, Sofiane Aklouf.
Oui, en tant qu'acheteur étranger, il vous faudra fournir un document prouvant que vous êtes un diplomate, un employé d'une organisation internationale ou de sa famille. Autre condition pour se procurer des produits importés, difficile à trouver dans les magasins russes ordinaires en ce moment, il faudra régler en devises étrangères, dollars ou euros, mais pas forcément être membre du Parti communiste, hein, comme les citoyens soviétiques de l'époque. Les produits visés sont les mêmes que ceux qu'on trouve habituellement en duty-free, hein, alcool, tabac, cosmétiques, parfums. Ces magasins étaient un moyen pour l'État d'acquérir des devises entre 1965 et le début des années 90. Ils sont petit à petit devenus des sortes de magasins de souvenirs, et cette fois, le Kremlin cherche à limiter les pertes financières, mais liées à la guerre en Ukraine. Et selon le journal The Guardian, les premières boutiques pourraient ouvrir dès l'automne.
Merci Sofiane, merci également à vous Claire. On se retrouve tout à l'heure à 8h30. Il est 8h11, les marchés financiers. On retrouve Aude Kersulek en direct du siège d'Euronext à La Défense. Aude, comment s'annonce l'ouverture ce matin ?
Eh bien, l'optimisme est revenu sur les marchés. On devrait ouvrir en légère hausse à Paris, plus 0,2% attendu. Alors, l'objectif, c'est d'aller chercher les 6500 points. On devrait ouvrir tout juste en dessous, aux alentours de 6488. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on est sur des séances très calmes en termes de volume. Hier, on a fait moins de 2 milliards d'euros échangés sur le CAC 40. Forcément, on est en plein au mois d'août. En tout cas, les investisseurs ont quand même été unanimes hier. Au moment du départ de Nancy Pelosi de l'île de Taïwan, il y a eu un soulagement vif et immédiat sur les marchés. Un soulagement que les choses ne s'emballent vite entre les États-Unis et puis la Chine. Et avec aux États-Unis, un indicateur du secteur des services qui a été meilleur que prévu, qui montre que ce secteur reste en croissance. Les marchés ont donc fini sur une belle hausse de plus de 1% à Paris, à Francfort, ou encore sur le Dow Jones. Le Nasdaq prenait même lui plus de 2,5%. Et puis des résultats qui avaient été salués, notamment celui de Moderna. Moderna, dont le titre s'appréciait de plus de 16%. On suivra à l'ouverture à Paris comment les investisseurs réagissent à la publication de Crédit Agricole ce matin, qui a fait beaucoup mieux que prévu. Un bénéfice à quasiment 2 milliards d'euros au deuxième trimestre, après surtout de bons résultats dans les activités de marché, donc la branche de la banque d'investissement. Et puis un mot sur le pétrole aussi, qui a baissé hier. Alors en deux temps, hein, avec cette hausse de la production de l'OPEP, mais ça a été tellement minime que finalement ça n'a pas eu d'impact. Ce sont surtout les stocks de pétrole plus élevés que prévu aux États-Unis qui ont fait baisser les cours de l'or noir. On est à 96,07 $ le Brent ce matin. Et puis un autre temps fort de la journée à suivre, c'est à 13h la réunion de la Banque Centrale d'Angleterre, qui devrait encore augmenter ses taux, hein, 50 ou 75 points de base, ce sera la question. En tout cas, ce sera la sixième hausse de taux depuis qu'elle a commencé à resserrer sa politique monétaire.
Merci beaucoup Aude Kersulec, on vous retrouve tout à l'heure à 9h pour le coup d'envoi de la séance à la Bourse de Paris. Faut-il taxer les super profits des entreprises? Faut-il conditionner le versement du RSA à de l'activité ou de la formation chaque semaine? Est-ce que le gouvernement est en train de détricoter les 35 heures? On parle de tous ces sujets juste après la pause avec Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. A tout de suite.
BFM Business, Good Morning Business, l'interview.
Faut-il taxer les super-profits des entreprises? Le secrétaire général des Nations Unies vient de relancer le débat. Il appelle les gouvernements à taxer les bénéfices des compagnies pétrolières. On va en parler avec Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Vous étiez favorable à la taxation des super-profits. La proposition a été rejetée par les députés et les sénateurs. Le gouvernement nous explique qu'il préfère jouer la carte de la négociation avec Total. 30 centimes de réduction à la pompe par litre de carburant, ça représente un effort d'environ 500 millions d'euros. Bercy nous explique qu'une taxe exceptionnelle sur Total n'aurait pas rapporté autant. Vous êtes d'accord?
Non, on n'est pas d'accord. On avait proposé une taxation sur l'ensemble des compagnies pétrolières et également quelques autres compagnies qui ont fait des bénéfices mirifiques pendant la crise et qui continuent à le faire et qui auraient rapporté, selon les calculs, au moins 10 milliards. Donc vous voyez bien que 500 millions d'un côté, 10 milliards de l'autre, on n'est pas sur le, on n'est pas du tout sur la même échelle. En outre, il y a une autre logique, c'est que si je prends simplement l'augmentation du prix des carburants, chacun s'impose des règles. L'État s'impose des règles, il baisse sa TVA. Il demande aux entreprises certaines règles, par exemple des D+, des salariés qui sont contraints d'utiliser leur voiture. Et les seuls finalement à qui on demande juste de l'aumône, à qui on demande aucune règle, c'est les grandes compagnies pétrolière, mais je pourrais élargir aux entreprises du CAC 40 qui, la plupart ont vu exploser leurs bénéfices tout en recevant des aides publiques de l'État, tout en distribuant une grande partie de ces bénéfices en dividendes et même l'an dernier en supprimant des emplois.
Vous dites 10 milliards d'euros, on ne compare pas les mêmes chiffres. 500 millions d'euros, c'est ce que va coûter à Total la réduction des prix à la pompe. Quand vous parlez de 10 milliards, c'est ce que potentiellement une taxe pourrait rapporter si on taxait l'ensemble des surprofits et pas uniquement Total, attention.
Oui, d'accord, mais n'empêche, c'est plusieurs milliards pour Total. Donc, on pourrait. Et puis, vous voyez bien qu'on n'est pas dans les mêmes conditions quand vous avez une règle qui vous contraint à, ou quand vous acceptez de. En outre, la diminution du prix du carburant par Total, elle n'est pas pérenne dans le temps. Elle est sur un coût qui est fait. Bon, ce n'est pas tous les pétroliers en plus. Donc moi, je crois qu'effectivement, là j'ai vu que le deuxième trimestre, si je ne me trompe pas, 2022, les pétroliers français, britanniques, enfin les principales compagnies, ont fait 60 milliards de bénéfices. C'est-à-dire qu'on est en pleine augmentation du prix du carburant, qui est surtout dû à une spéculation, et elles doublent leurs bénéfices par rapport à l'an dernier. Vous voyez bien qu'il y a un problème, et ça renvoie, parce que vous allez me poser après une question sur les salaires, au partage des richesses. Comment on fait en sorte que les recettes de l'État, comment on fait en sorte que le pouvoir d'achat de nos concitoyens ne baisse pas, de la plupart ne baisse pas, et bien il faut partager des richesses, et donc il faut aller prendre l'argent là où aujourd'hui il prospère de manière outrancière.
Taxer les profits exceptionnels, on comprend le principe pour les compagnies pétrolières, mais où est-ce qu'on place le curseur pour les autres entreprises ? Est-ce qu'on considère que les résultats des banques sont liés à des facteurs exceptionnels ? Est-ce qu'on taxe, par exemple, ST Microelectronics, qui a bénéficié de la pénurie de semi-conducteurs ? Comment est-ce qu'on définit cette notion de super-profit ?
Alors, déjà, il y a deux choses. Avant de parler des taxations exceptionnelles, je voudrais revenir quand même sur un problème de fond. C'est que les 197 000 PME en France payent en moyenne quasiment 25% d'euros d'impôts sur les sociétés, quand les 300 plus grandes entreprises payent en moyenne 17%, et figurez-vous, des entreprises comme Total payent 0 euro. Ça fait 2 ans que Total ne paye pas 1 euro en France d'impôts, ce n'est pas les seuls, il y a Renault aussi, Sanofi paye très peu. Bon. Donc on a déjà un problème global de justice, j'allais dire fiscale, par rapport à des entreprises qui font quand même beaucoup d'emplois en France, et les PME, les TPE, et puis d'un autre côté, des très grosses entreprises qui redistribuent en plus une grosse partie de leurs bénéfices en dividendes. Après, en plus, se rajoute effectivement une taxation exceptionnelle qui est assez simple à mettre en place. Je ne vous donne pas les chiffres précisément, mais l'idée, c'était de voir qu'est-ce que ces entreprises, avant le Covid, faisaient comme bénéfices, versaient comme dividendes, qu'est-ce qu'elles ont fait pendant et depuis le Covid en bénéficiant des aides de l'État. Donc on fait un prorata, on regarde si elles ont fait des bénéfices vraiment très importants pendant le Covid, eh bien on les taxe en fonction de cette augmentation de bénéfices.
Mais avec ce risque, avec ce raisonnement, le risque c'est de s'attaquer à la hausse des profits tout court. Est-ce qu'on peut empêcher les entreprises de faire des bénéfices ? On sait très bien que si on limite les bénéfices, ça aura un impact sur l'emploi, sur l'investissement, sur notre attractivité. Il y a une réalité à laquelle on ne peut pas échapper, Éric Coquerel.
C'est très curieux, vous avez raison à la logique, mais moi je le revendique, mais c'est très curieux cette société où quand vous touchez le RSA, on va bientôt, si le gouvernement arrive à faire passer sa loi, demander à des bénéficiaires du RSA de faire quelques heures de travail pour un salaire de misère. Quand vous êtes chômeur, on va vous demander d'avoir moins d'indemnités. Et par contre, à l'autre bout de l'échelle, les entreprises qui font des bénéfices, je vous rappelle quand même qu'ils sont adossé sur le travail des gens, on ne fait pas du bénéfice comme ça, c'est pas né de n'importe où, eh bien, elles, on n'y touche jamais. Il y a une contradiction. Et il y a une contradiction qui est insupportable pour une bonne raison, c'est que on voit que nous avons affaire à un dérèglement climatique d'ampleur. Chaque année, malheureusement, il est probable qu'on ait des événements qui mobilisent les services de l'État, mobilisent les collectivités, mobilisent la solidarité nationale. On a eu le Covid, là, on vient d'avoir des incendies. On peut craindre que véritablement ce soit nécessaire. Dans ces cas-là, il faut que chacun participe à l'effort. Et si vous ne partagez pas les richesses, si vous n'allez pas chercher l'argent là où il est le plus, on n'y arrivera pas. Il n'y aura pas suffisamment de recettes. Et c'est exactement ce que l'État nous propose, de baisser les recettes de l'État au moment où on en a besoin, justement, face à ces dérèglements climatiques.
On a souvent tendance en France à vouloir taxer les bénéfices quand ils sont exceptionnels a priori, mais est-ce que ça marche dans le sens inverse ? Société Générale, par exemple, a annoncé hier matin une perte trimestrielle d'1,5 milliard d'euros. C'est lié à la Russie. On ne va pas aller aider Société Générale qui, pourtant, est victime de ce contexte.
On a l'habitude en France. Je peux remarquer que là, la taxation exceptionnel sur les pétroliers se fait en Espagne, en Italie, en Angleterre, que l'ONU, vous l'avez dit tout à l'heure, appelle à taxer les pétroliers. Donc, j'ai pas l'impression qu'on soit les champions du monde de la taxation, contrairement à ce que dit le gouvernement. On a même depuis 5 ans eu énormément de baisses d'impôts sur les sociétés, beaucoup d'exonérations sans aucune contrepartie. C'est ce sur quoi nous insistons. Encore une fois, on a le propre de ce que nous vivons depuis 30 ans, et là, c'est accéléré avec Emmanuel Macron, c'est que dans la production nationale, qui est la production nationale, ce qu'on appelle la valeur ajoutée, c'est-à-dire ce que produisent les entreprises, la part de cette valeur a sans arrêt été déportée vers le capital au détriment du travail. Or, le problème, c'est que si vous faites ça, eh bien, à un moment donné, chacun comprendra, vous avez un problème de consommation populaire, un problème de pouvoir d'achat, donc un problème aussi de ce qui fait fonctionner l'économie, c'est-à-dire ce que les gens achètent. Bon, et là, on est un peu à la limite du système. Mmh. À quoi sert, par exemple, au-delà d'apparaître plus compétitif, mais à quoi sert de surenchérir des gens qui ont déjà suffisamment? Vous savez qu'il y a 5 personnes en France possèdent l'équivalent de patrimoine de 27 millions d'autres personnes. C'est du jamais vu. À quoi leur sert cet argent mobilisé et à quoi servirait-il au nom de l'intérêt général? C'est ça la question qui est à se poser et non pas le fait de se dire bon, bah, tant mieux, les entreprises font toujours plus de bénéfices, distribuent toujours plus en dividendes et le monde va bien comme ça. Eric... Moi, je crois que nous n'avons plus les moyens du coût du capital. Voilà la réalité. Elle n'est pas seulement en France, mais elle est aussi en France.
Éric Coquerel, vous parliez du RSA il y a quelques minutes. Est-ce qu'il faut instaurer une contrepartie au versement de certains minima sociaux? Le gouvernement s'apprête à lancer une expérimentation dans une dizaine de départements. Quelques heures de travail ou de formation chaque semaine en échange du RSA. L'idée, c'est d'aider ces personnes à retrouver le chemin de l'emploi.
Non, je crois que c'est une mauvaise solution pour deux raisons. D'abord, pour ces personnes, il n'y a pas de raison que des gens soient sous-payés avec un salaire de misère parce qu'ils sont encore plus pauvres et plus déshérités. Et puis, deuxièmement, pour tout le monde. Parce que si vous commencez à entériner l'idée que vous pouvez travailler pour très peu d'argent, chacun comprendra que vous entraînez, du coup, le coût du travail toujours plus bas. Voilà, c'est un problème. Chacun croit, si vous êtes payé dans une entreprise pour faire un travail donné, ou dans une fonction publique ou une collectivité, on vous paye au niveau décidé soit par le niveau du SMIC, soit par les négociations salariales. Et si à côté de vous, quelqu'un fait ce travail obligé pour vraiment très peu d'argent, vous comprendrez que chacun, à un moment donné, le travail perd en valeur en réalité. Donc je pense que c'est vraiment pas une bonne solution, pas seulement pour les gens qui touchent le RSA, mais pour tout le monde.
L'argument du gouvernement, quand même, et les chiffres le confirment, c'est que le RSA n'aide pas à retrouver un travail. Et ça, on est d'accord sur ce constat.
Le problème, c'est qu'il faudrait, contrairement à ce que dit le gouvernement, il faudrait du travail. Voilà, avant tout pour trouver du travail. Et il faudrait aussi faire en sorte que notre économie se relance, par exemple, par des grands plans d'investissement. Nous, on a fait une proposition, on a proposé le droit opposable au travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui est chômeur depuis très longtemps, donc où touche les minima sociaux, puisque je vous rappelle qu'au bout d'un moment, la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés, eh bien, puisse quelque part saisir l'État et dire « La Constitution me reconnaît le droit de travailler, proposez-moi un travail qui est équivalent au minimum à ce que à un SMIC, par exemple. » Voilà, c'est des manières de proposer aux gens de revenir au travail, mais sur un vrai travail, réellement rémunéré. Pas, j'allais dire, ces espèces d'expédients qui sont, au bout d'un moment, l'aumône du pauvre.
Le gouvernement va permettre aux entreprises de monétiser les jours de RTT sans limitation. Vous dites qu'on est en train de détricoter les 35 heures.
Évidemment. À partir du moment où vous défiscalisez les heures supplémentaires, vous supprimez les cotisations ou une partie des cotisations des heures supplémentaires, que vous permettez de racheter les RTT, c'est-à-dire tout ce qui, en théorie, vient au-dessus du cadre légal et de manière de travail. Vous les favorisez. Et donc, à partir de là, si je suis chef d'entreprise demain, j'aurai plus tendance à payer en heures supplémentaires un salarié, puisque ce sera défiscalisé, puisque ce sera, il y aura des exonérations, ou alors à racheter les RTT de ce salarié plutôt que d'embaucher quelqu'un qui, lui, aura un salaire avec les cotisations normales. Donc déjà, premier problème. Deuxième problème, moi, je crois que la question, c'est d'augmenter les salaires nominaux. C'est pas de forcer les gens à travailler plus pour gagner plus. Aujourd'hui, les salaires sont trop bas en France. C'est ça, la réalité. Et ce que je reproche le plus à ce gouvernement et à son projet de loi de finances rectificatif sur lequel nous allons nous exprimer tout à l'heure, c'est qu'il fait tout pour que les salaires soient augmentés. C'est ça, la réalité, pour que le prix du travail baisse. Je ne suis pas d'accord avec le...
Mais comment est-ce qu'on augmente les salaires sans alimenter l'inflation? On sait très bien que si on relève tous les salaires de 7, 8, 9% pour coller à l'inflation, ça va rapidement être absorbé par la hausse des prix.
Je vous fais déjà observer que l'inflation, il n'y a pas de l'augmentation des salaires. Là. Elle vient du renchérissement des matières premières, de l'énergie, du dérèglement du système financier international. C'est ça, l'inflation, principalement.
Mais Éric Coquerel, si je vous augmente aujourd'hui de 8%, votre boulanger demain va se dire, je peux augmenter ma baguette de 8% parce que Éric Coquerel a les moyens de payer 8% de plus. Idem pour votre loyer si vous êtes locataire, idem pour tout ce qui fait, tout ce qui constitue les dépenses de la vie courante. On sait très bien que c'est un mécanisme de l'inflation. Si on augmente tous les salaires, très rapidement, c'est mangé par l'inflation.
D'accord. Donc, vous pensez-vous que c'est normal que les salariés perdent de l'argent chaque année ?
Non, je ne pense pas. Je vous pose juste la question. Comment est-ce qu'on augmente les salaires ? C'est quand même,
excusez-moi, mais ce qui est quand même étonnant, c'est que l'inflation, je viens de vous le dire, que nous subissons actuellement ne vient pas de l'augmentation des salaires. Et on dit que la conséquence, c'est que les salariés doivent, c'est les salariés qui doivent payer. Ben, moi, je ne pense pas, justement. Je crois que, il faudrait rapidement intervenir sur l'inflation. Je vous donne un exemple pour intervenir sur l'inflation qui est contradictoire à ce que fait le gouvernement. Pratiquement la moitié de l'inflation, pas tout à fait, mais la moitié de l'inflation vient du renchérissement de l'énergie. Pour qu'on arrive à ne pas être sujet à cet renchérissement de l'énergie qui vient de la spéculation, il faut développer notre autonomie énergétique. Il faut développer une sobriété énergétique. Donc, il faut un grand plan de bifurcation écologique et le moment est venu d'investir parle de l'État, ce que l'État ne fait pas. Ça, c'est une manière de lutter contre cette inflation provoquée par le renchérissement de l'énergie ou des matières premières. La deuxième question qui se pose, c'est que les salariés ne peuvent pas être les seuls qui quelque part, payent l'inflation. Parce que vous remarquerez, on parlait tout à l'heure des revenus du capital, là, il n'y a pas de problème. Personne ne se pose la question de revenus du capital qui explosent. Est-ce que, par hasard, ça alimenterait l'inflation ? Eh ben, moi, je pense que ça alimente l'inflation, la manière dont les dividendes explosent dans le monde. Donc, ce n'est pas les salariés qui doivent le subir. Les salariés, on doit faire en sorte qu'ils ne subissent pas l'inflation et on verra comment juguler l'inflation après.
Merci beaucoup, Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Il est 8h30, à suivre le journal. On fait un nouveau point sur l'actualité économique avec Claire Sergent et les résultats de Crédit Agricole qui ont été publiés ce matin. Ils sont meilleurs que prévus.
Ah oui, Crédit Agricole qui dépasse les attentes sur son bénéfice net, sur son produit net bancaire, son coût du risque qui baisse. En direct d'Euronext, on retrouve Aude Kersulek. Aude, surtout, Crédit Agricole enregistre une activité record dans la banque d'investissement.
Oui, la banque d'investissement, le pôle CACIB, voit ses revenus croître de 32%. Alors, ce sont les activités de marché qui ont bien performé grâce à la volatilité en fait des cours, parce que Crédit Agricole vend beaucoup d'indices de couverture et donc il a fallu se protéger pour les investisseurs. Alors, CACIB ainsi que l'activité gestion fortune qui croît de plus de 8% ont tiré la croissance. Alors, le bénéfice s'affiche à 1,98 milliards d'euros pour le deuxième trimestre. Pour Crédit Agricole SA, 2,5 milliards sur l'ensemble du premier semestre, c'est bien plus qu'estimé. Le produit net bancaire, lui, le revenu des banques s'affiche en hausse de 6%, mais c'est aussi dû à l'intégration de l'Ixor dans la gestion d'actifs. Et puis le coût du risque, qui est un indicateur qu'on regarde beaucoup pour les banques, a baissé de 20% au deuxième trimestre par rapport à l'année dernière. Les provisions pour créances douteuses ont été moins nombreuses à être passées. Ça veut dire que les incertitudes ont un petit peu diminué. Là, l'effet est surtout visible depuis le mois d'avril, parce que sur la première partie de l'année, dans le contexte de la guerre en Ukraine, Crédit Agricole avait passé beaucoup de provisions. Et puis, donc, le coût du risque qui s'affiche en baisse de 20%. Donc, c'est une bonne publication pour Crédit Agricole après celle de BNP Paribas en fin de semaine dernière et puis aussi de Société Générale hier. Les banques qui vont entamer le cycle de hausse de taux de la Fed, de la BCE d'une belle manière.
Merci beaucoup, Aude Kersulek. On vous retrouve tout à l'heure à 9h pour le coup d'envoi des cotations à la Bourse de Paris.
Et dans le secteur aérien, la compagnie allemande Lufthansa réalise son premier bénéfice net trimestriel depuis le début de la pandémie. L'activité qui est tirée par le fret à travers sa branche cargo. Le groupe prévoit un résultat opérationnel d'au moins 500 millions d'euros à la fin de l'année.
On en parlait tout à l'heure avec Éric Coquerel. Le gouvernement veut réformer le RSA, le revenu de solidarité active.
Et oui, on en connaît le principe. Le versement des aides sera conditionné à une activité, comme des stages, des formations. Et le gouvernement dit vouloir raccrocher les allocataires du RSA au milieu du travail, leur permettre une meilleure insertion. Et ce matin, les Échos révèlent que des expérimentations vont avoir lieu dans plusieurs départements à la rentrée, Sofiane Aklouf.
Oui, l'exécutif veut s'inspirer du nouveau contrat d'engagement jeune qui prévoit entre 15 et 20 heures d'activité hebdomadaire et une échelle de sanctions en cas de manquement. Un certain nombre de départements pilotes ont été identifiés, entre 5 et 10, le Nord, la Somme ou les Alpes-Maritimes. Ils ont fait part de leur intérêt, mais la liste n'est pas encore arrêtée. Ils seront chargés d'accompagner différemment les allocataires. Un suivi qui préfigure le lancement de France Travail. Vous savez, ces nouveaux pôles emploi voulus par Emmanuel Macron, avec une place plus forte pour les entreprises, la formation professionnelle et le retour à l'emploi. Selon les informations des Échos, ce dispositif devrait être généralisé début 2024.
Et pour justifier sa position, le gouvernement explique qu'il veut remédier à un problème structurel avec le RSA, c'est le faible taux de retour à l'emploi des allocataires. Est-ce qu'on a déjà tenté ? Est-ce que ça fonctionne ?
Oui, une expérimentation de ce type a été tentée en Île-de-France entre 2019 et 2021 et le bilan vient tout juste d'être publié par le ministère du Travail. Il est plus que mitigé. Seulement 38% des places réservées aux allocataires du RSA dans ces formations professionnelles ont été occupées. Donc avec un public qui s'éloigne du monde du travail et qui ne parvient pas réellement à s'y raccrocher. Pour autant, rester sur le modèle actuel du revenu de solidarité active convainc peu de monde. Selon la Cour des comptes, seul un tiers des bénéficiaires du RSA ont un travail 7 ans après le début de la période d'indemnisation. Et encore, dans la grande majorité des cas, ce n'est pas un emploi durable.
Merci beaucoup, Sofiane Aklouf. L'Europe cherche toujours à s'affranchir de l'énergie russe. La question, c'est ce qu'on y arrive.
Pas pour le moment. En tout cas, un exemple, le diesel. Là, l'Europe est à la peine. Pour preuve, ses importations ont augmenté de plus de 20% le mois dernier par rapport à juillet il y a un an. Charlotte Guerre.
Ne plus financer la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine, ce n'est pas si évident pour l'Union européenne. Le mois dernier, l'Union a importé 700 000 barils de pétrole par jour. C'est près d'un quart de plus qu'un an plus tôt sur la même période, selon Vortexa, un groupe de suivi des pétroliers. À l'heure actuelle, la Russie représente plus de la moitié des importations de diesel de l'Union et 15% de notre consommation globale. La demande pourrait encore grimper. Les prix du gaz naturel et de l'électricité ne cessent d'augmenter, incitant les industriels à consommer davantage de diesel. Encore beaucoup d'achats. Malgré un accord voté par les 27 pour réduire de 90% leurs importations de pétrole russe d'ici à février, finalement l'Union européenne a décidé de l'assouplir le mois dernier en autorisant par exemple ses entreprises à effectuer des transactions avec Rosneft, société russe d'extraction de pétrole. De son côté, la France importait un quart de son diesel de Russie il y a 2 ans et pour s'en affranchir aujourd'hui, elle se tourne vers d'autres fournisseurs, comme les Émirats Arabes Unis, avec lesquels le pays a passé un accord le mois dernier.
Emmanuelle Wargon, nouvelle présidente de la CRE, la Commission de Régulation de l'Énergie.
Le Parlement l'a validé de justesse hier, cette nomination. L'ancienne secrétaire d'État à l'écologie, qui est dans la droite ligne du gouvernement, elle va militer pour une refonte profonde de l'ensemble des prix de l'électricité. Mathieu Pechberti.
La crise énergétique oblige à changer les règles du jeu du marché de l'électricité. La nouvelle présidente du régulateur de l'énergie estime que l'envolée des prix pousse à revoir leur fixation. Pour Emmanuel Wargon, le système actuel est devenu totalement obsolète.
Les mécanismes de régulation qui fonctionnaient par temps calme, que ce soit à l'échelle française ou européenne, ne fonctionnent plus dans un marché dans lequel le prix de l'électricité atteint en ce moment 800 euros du mégawattheure.
Elle souhaite que les prix de l'électricité ne soient plus indexés sur ceux du gaz, dont les cours ont explosé et sont à la main des Russes. Elle plaide à l'inverse pour que la France s'affranchisse des règles européennes afin de profiter des avantages du nucléaire.
Nous devons mieux intégrer dans notre prix de marché national la part des énergies décarbonées, renouvelables et nucléaires, qui sont une base pour nous et dont les prix n'augmentent pas aussi vite que les prix du gaz.
Emmanuel Wargon défendra cette stratégie devant la Commission européenne, mais la bataille est loin d'être gagnée. Bruxelles refuse pour le moment à la France toute exception, ce qui risquerait de remettre en cause l'unité du marché en Europe.
Une nouvelle vague de chaleur traverse la France et les assureurs s'inquiètent pour les conséquences financières.
Et oui, face à la sécheresse qui s'aggrave, eh bien, de plus en plus de personnes sont touchées, les agriculteurs, mais aussi les particuliers et leurs habitations. Et la facture risque de s'alourdir pour les assureurs. Caroline Morisseau.
C'est un phénomène connu depuis longtemps, mais qui inquiète de plus en plus. Dans le jargon des assureurs, on l'appelle RGA, pour retrait gonflement des sols argileux. Concrètement, en période de sécheresse, les sols se rétractent. À l'inverse, en période de pluie, ils se gonflent au point d'abîmer les fondations et de créer des fissures dans les habitations. Le problème est loin d'être marginal. Selon un récent rapport de la Cour des comptes, en France, près de la moitié des maisons individuelles sont exposées à ce risque, avec à la clé une facture qui s'élève déjà à 1 milliard d'euros par an pour le régime catastrophe naturelle pris en charge par l'État et les assureurs. Pour cela, encore faut-il que la commune obtienne une reconnaissance de catastrophe naturelle. Pour les particuliers concernés, les procédures relèvent d'un véritable parcours du combattant. Surtout avec les sécheresses à répétition, les assureurs redoutent une facture de plus en plus lourde, ce qui pourrait pousser certains à augmenter leurs cotisations ou à réduire les indemnités.
Il est bientôt 8h39, les marchés financiers. Avec Stéphane Sauduteil, responsable du site technibourse.com. Bonjour Stéphane.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous. Les marchés ont été rassurés hier par les derniers chiffres concernant l'activité dans le secteur des services. Ça va être suffisant pour maintenir cette tendance haussière ?
On espère. C'est vrai que le PMI des services aux États-Unis est ressorti en forte hausse hier pour juillet à 56,7, alors que le consensus attendait 53,4. Alors cela éloigne l'idée d'une récession, au moins en attendant une prochaine mauvaise statistique macroéconomique. On voit que les marchés vivent quand même un petit peu au jour le jour ou de statistique en statistique. Pour l'heure, les taux d'intérêt se sont de nouveau tendus. Les investisseurs se disent que de bonnes statistiques laissent les coups des franches à la Fed pour monter peut-être un petit peu plus les taux d'intérêt, mais c'est pas suffisant cette hausse des taux pour inquiéter vraiment les marchés d'actions pour le moment. On notera quand même que le pourcentage d'investisseurs haussiers à plus de 74% aux États-Unis commence à devenir un tout petit peu inquiétant pour la pérennité du mouvement de correction technique haussière. On se rappellera que le 20 juin dernier, il y avait 11,4% d'investisseurs haussiers juste avant que les marchés d'actions reprennent entre 10 et 18% pour certains. On s'approche de deux grosses statistiques très importantes qui sont demain le NFP, les créations d'emplois pour le mois de juillet à 14h30 et surtout l'inflation US mercredi prochain, également à 14h30, qui pourrait rebattre encore les cartes sur les marchés. Alors hier, le CAC 40 a comblé une partie du gap ouvert vendredi dernier. Il reste quand même un trou de cotation de 42 points, entre 6339 et 6381 points. Si l'indice passait maintenant sous les 6339 points, on pourrait dire que le momentum haussier s'affaiblirait avec en ligne de mire de nouveau les 6220 points environ.
Merci.
L'indice va... Oui, tenter ce matin de déborder les 6500 points. S'il y arrive, on peut viser 70% plus haut.
Merci beaucoup Stéphane Sauduteil, responsable du site Technibourse. On va parler immobilier à présent. Rentabiliser son logement bien au-delà de la location saisonnière, si vous avez un garage, une cave, une piscine ou tout simplement un grand espace de travail, ça peut être un complément de revenu intéressant. Marie Cœur de Roy.
Au-delà des dépenses qu'ils nous imposent, nos logements sont aussi des mines d'or potentielles, caves, jardins, piscines. Même ponctuellement, on peut tout louer ou presque chez soi. Et de plus en plus de plateformes nous facilitent la tâche. Pour les piscines, d'abord, le Airbnb de la piscine s'appelle Swimmy et ça peut rapporter gros jusqu'à plusieurs centaines d'euros par heure de location pour les plus belles piscines aux abords des grandes villes. Et même sans piscine, le jardin, lui aussi, se loue assez facilement. Alors pour ceux qui n'ont aucun espace extérieur, on peut aussi louer sa cave. Le site jestock.com en a fait sa spécialité avec des revenus mensuels qui peuvent atteindre 200 ou 300 euros dans les grandes villes. Enfin, même pour ceux qui n'ont pas de cave, il y a toujours matière à rentabiliser son logement. L'entreprise Office Riders a fait les comptes. Entre le travail, l'école des enfants, les dîners à l'extérieur, nos logements sont vides la moitié, voire les deux tiers de la journée, alors qu'il existe des gens comme des travailleurs indépendants, voire des entreprises qui cherchent ponctuellement ou régulièrement des espaces pour des présentations, du travail d'équipe, bref, pour beaucoup de raisons, des profils qui veulent être comme à la maison et non pas dans un centre de coworking. Et c'est là que les propriétaires ont une carte à jouer. Alors évidemment, ce sont quand même les logements les plus exceptionnels qui se louent le mieux à la journée. À Maran-Bareuil, près de Lille par exemple, un appartement haussmannien toit-terrasse de 80 mètres carrés se loue 500 euros la journée. Bon, notez quand même que le jacuzzi est compris dedans.
À suivre dans un instant Culture Geek avec Frédéric Simotel et Anthony Morel.